Soit avec leurs étudiants dans une discipline ou soit avec les technologies, ils ont des approches très individuelles. Vous, vous avez, je ne sais pas même depuis combien d'années, mais vous avez une complicité, une connivence qui fait que, à l'intérieur d'une même discipline, puis une certaine une approche technologique, vous avez développé une façon de travailler de connivence. Comment ça a commencé, d'une part, et quels sont pour vous les avantages de travailler de cette façon-là?
Ah ben c'est...
C'est de sa faute. Je me souviens qu'il m'avait invité dans son appartement un moment donné parce qu'il voulait enseigner en histoire. Et puis, il me dit, « Ah, tu fais ça comment, toi? Tu donnes ça comment, ce cours-là? » Donc, c'est de sa faute.
Parce que c'est ça, j'étais encore prof de socio à ce moment-là. Mais j'avais terminé, je venais de terminer mon doctorat en histoire. Et à ce moment-là, il y avait le nouveau programme en sciences humaines qui rendait le cours de civilisation occidentale obligatoire. Et donc, là, je me disais, y a-t-il moyen de peut-être me faire attribuer une tâche en histoire? Donc, on avait commencé, et lui était coordonnateur du département à ce moment-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à se parler. Mais, en fait, moi, c'est drôle. C'est vrai ce que vous dites, qu'il y a beaucoup de profs là, qui travaillent... dans leur coin, là, individuellement, mais moi, je sais que j'aurais lâché depuis très longtemps s'il n'y avait pas cette complicité avec Louis, parce que ça peut être une montagne, et quand on est tellement seul avec ça, on se décourage. Et je sais qu'à tant de moments où j'étais écœuré, et que j'aurais juste voulu tout crisser par la fenêtre, puis Louis avait un sursaut d'énergie, puis reprenait le bâton, puis donc là, j'ai pu reprendre mon souffle, puis le rattraper par la suite, puis inversement, sans doute. Mais donc, ça, c'est... Comment ça se fait qu'il y a cette complicité-là? Ça, c'est... Je pense que c'est un... On est béni des dieux, c'est tout. mais en fait, tu sais, je pense que la possibilité aussi de respirer de différentes manières, c'est très important. Il y a des moments où on se voit physiquement beaucoup, mais il peut y avoir des très longues périodes où on se voit presque pas. Et on va s'écrire un peu, puis on a énormément de respect pour ce que chacun fait dans sa classe. On est curieux. Je pense que je suis continuellement épaté par des idées qu'il peut avoir. Mais je ne vais pas nécessairement les adopter tous. Puis je pense que c'est la même chose.
Oui, bien, en fait, à la base de tout ça, c'est une relation qui est plus personnelle qu'une relation d'affaires, entre guillemets, une relation... Et je pense que l'un va avec l'autre, parce que c'est drôle, les gens trouvent les enseignants extrêmement sensibles. Et c'est vrai qu'on est sensible, mais c'est parce qu'on est, il faut pas l'oublier, et ça les gens l'oublient beaucoup, c'est qu'on est continuellement jugé. Et on est jugé par qui? On est jugé par nos étudiants. Quand on entre dans une classe en début de session, puis qu'on a là 40 paires d'yeux qui nous regardent.
160 paires d'yeux.
Oui, mais dans une classe. Et là, tu te dis, c'est évident que, le détail ici ou le petit élément que tu as mal fait, tout ça, tu le sais qu'ils vont. Et donc, je pense pour beaucoup de profs à vous, mais je pense que comme enseignant, on se sent souvent vulnérable. Et donc, dans une relation avec un collègue, la première des choses, c'est comment va-t-il me juger? Et c'est au moment où on a passé cette étape-là que ça devient intéressant. Et donc, ça se fait sur le plan personnel. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est des acquaintances personnelles. C'est à un moment donné, on en vient à la certitude que cette personne-là me respecte. Je la respecte. Et oui, je fais des erreurs. Oui, elle fait des erreurs. Oui, on n'aura pas peur de se le dire. Et quand on se le dit, on être assez sensible à l'autre pour m'amener, bon, employer un langage, une approche qui, si on le sent plus fatigué ou plus un petit peu plus déprimé pour telle ou telle raison, ben on sait aussi, et ça va faire en sorte que on progresse ensemble. Et donc ça joue sur le plan personnel. C'est difficile de pas le faire comme ça. Mais là on parle quand même de quelque chose qui est un petit peu particulier dans notre cas parce qu'il y a un projet d'envergure dans lequel on est embarqué. Un moment donné, l'homme qui m'a accroché là-dessus. Si ce n'était ça, il est évident que ce serait probablement, si on parle par rapport aux nouvelles technologies, là, j'entends, c'est sûr que ce serait différent.
Là, tu parles du développement du projet Chronos?
Oui.
Et qu'est-ce que le développement de ce projet-là vous a amené au niveau de la pédagogie? Dans le fond, vous avez développé un outil pour vos cours, mais est-ce qu'en développant cet outil-là, ça a développé aussi d'autres visions de la pédagogie en le faisant, là? Le côté pratique, vous êtes deux profs qui, dans le fond, votre travail, c'est d'enseigner. Mais là, vous prenez le temps de développer un outil technologique. Est-ce que ça nous, l'un nourrit l'autre?
Ah, ça a bouleversé complètement, quant à moi.
Sur le plan pédagogique, sur le plan disciplinaire et sur le plan informatique, notre facilité à apprivoiser des idées informatiques, tu sais, tout ce médium-là et ces outils-là. Je pense que sur le plan strictement là, pédagogique, c'est que ça permet aux élèves de prendre des informations et de jouer avec, les manipuler, les travailler de manière beaucoup plus concrète que ce qu'ils pouvaient faire avec un livre. Et ça, c'est... Donc, quand vous parliez là du constructivisme tout à l'heure, je pense que Chronos est un outil un peu de ce genre-là, où un élève, il peut partir avec un personnage, puis il peut essayer de voir... de bâtir quelque chose avec ce personnage-là, puis ensuite, ils peuvent travailler avec un événement ou avec la musique, des images, les associer. Donc, il peut construire un peu sa signification de l'histoire avec un outil comme ça qu'il ne pouvait pas faire dans les genres d'exercices qu'on donnait avant. Puis, je trouve que pour nous aussi, là, ça a été essentiel parce que tant de fois, on a l'impression que soit qu'on se répète, tu sais, avec les élèves, soit que on fait des choses puis ça disparaît puis il reste plus rien là, de tous ces efforts qu'on a mis. Là, avec Chronos, là, c'est comme si d'abord on est continuellement en apprentissage au niveau de la discipline, et ça, c'est très stimulant. Dans nos exposés qu'on va donner aux élèves, dans la richesse des exemples qu'on peut donner aux élèves. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que ça a eu un énorme impact.
Et pour les autres profs du réseau, vous autres, vous avez développé un outil pour vous, mais c'est un outil qui est disponible maintenant aux autres profs d'histoire. Quel est le feedback que vous avez des autres profs?
C'est minime, là, pour le moment. Il y a un autre groupe de profs à Montmorency là qui est en train de développer une banque, qui a développé une banque et qui sont en train de développer une autre banque. Mais je pense que c'est intimidant pour d'autres profs et aussi il reste, je dirais, un peu de travail à faire de notre côté, du côté aussi du CCDMD. Pour rendre ça un peu plus convivial, un peu plus de soutien, d'aide. Tu sais, il n'y a pas vraiment, les fichiers d'aide sont pas très corrects. Il n'y a pas de tutorat, de didacticiel là, qui va avec ça. Enfin, donc il y a un travail à faire qu'on a demandé. On a demandé aussi un certain soutien là, pour faire ça. Et normalement, ça va venir. Mais tu sais, ça c'est long. Donc pour l'instant, il y a un peu une déception de ce côté-là.
Oui, puis, mais il faut dire, puis c'est vrai que c'est un projet qui est un peu fou, hein, parce qu'on travaille sur une durée, qui est riche, qui est celle du 15e au 20e siècle. La première version de Chronos ne traite que du 15e au 17e siècle. Donc, moi, je comprends tout à fait que des profs qui disent, ben, dans mon enseignement, intégrer un tel outil alors que je vais m'en servir pour peut-être 3 semaines, 4 semaines, c'est beaucoup d'investissement. J'hésite. Hein? Alors, là, on travaille actuellement sur la deuxième partie, donc on travaille à compléter 18, 19, 20e siècle, à avoir des assises donc assez larges, mais en demeure pour moi que c'est aussi la limite de, comment dirais-je, j'ai un rêve, moi. Hein? J'ai un rêve. On parlait tout à l'heure de constructivisme. Puis, en fait, ce qu'on se dit même bien souvent, c'est que les élèves ne fouillent pas assez. Alors, mais pour qu'ils fouillent, il faudrait que j'aie en classe, finalement, des étudiants qui ont accès à un micro-ordinateur, qui sont là, qui peuvent faire les exercices, et on peut faire ça à l'intérieur de la classe. Actuellement, avec les ressources qui sont disponibles dans notre collège. Mais j'imagine aisément que c'est à peu près partout la même chose. C'est extrêmement lourd, extrêmement difficile de penser qu'on pourrait, à côté de notre salle de classe, ou plutôt à l'intérieur de notre salle de classe, avoir de véritables salles de classe branchées, où les étudiants arrivent, ils ont leur micro-ordinateur, puis on travaille, on fait tel petit exercice, allez, vous avez le logiciel, je reviens en théorie à l'avant, on retourne dans... il faut réserver un laboratoire. Il n'y a pas de place dans les laboratoires. Il n'y a pas de disponibilité.
Ils ne peuvent pas travailler seuls. Et ça, c'est des fois, c'est un avantage.
Non, c'est un inconvénient majeur.
Mais des fois, c'est un inconvénient. Mais
on a 20 postes pour 40 étudiants. Ça ne marche pas. Il y en a un qui... Alors, c'est un outil qui demande qu'on s'y lance seul aussi. Donc, ça, c'est une limite, je dirais, des institutions actuellement. Bien sûr, nous, on mise sur le fait que 99 % des étudiants ont un micro-ordinateur à la maison. 92, 93, 95 % ils sont branchés sur le net. Oui, bien sûr. Mais il y a tellement de problèmes qu'on rencontre. Parce que la façon dont, quel type d'appareil ils ont, comment se comporte leur système à un moment donné. Évidemment, on n'a pas d'emprise là-dessus. Alors, de s'attendre toujours à ce que l'étudiant puisse, à la maison, il y a un pas qui reste au niveau des nouvelles technologies, là, il y a un pas qui reste à franchir dans les institutions à coup sûr.
Mais c'est là-dessus qu'on pourrait terminer. Dans le fond, vous avez connu toute l'histoire de l'intégration des technologies ici au collège. Qu'est-ce que c'est l'image que vous en gardez en termes, là, tu viens de parler de certains problèmes. Dans le fond, vous n'avez pas en classe les outils qui vous permettraient d'aller. Mais sur les 15 dernières années, c'est quoi l'image que vous avez de l'intégration des technologies au collège Édouard-Montpetit?
Dans l'ensemble, je sais qu'on peut toujours rouspéter, mais dans l'ensemble, je suis assez content du soutien qu'on reçoit ici. Je le vois de votre part, je le vois de la part de Nicole Perrault, qui était là avant. Je pense que, et je le vois aussi là, depuis l'arrivée, je pense, de Guilbeault, là, qui est là, qu'on sent que les choses commencent à prendre une certaine forme, là. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on peut faire quelque chose comme ça et résoudre tous les problèmes immédiatement. Il faut aller en écoutant les profs, en écoutant leurs besoins. Peut-être ce qu'il faut aussi, c'est de pas espérer trop des solutions magiques. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment soutenir ceux qui bougent. Et que les gens qui essaient des choses, qui sentent qu'ils vont pas être abandonnés.
Et que ce soit reconnu aussi.
Et que ce soit reconnu.
Que ce soit reconnu, parce que qu'on pense des choses aussi simples que la disponibilité, par exemple, au niveau des courriels, il faut reconnaître ça, là. Il faut reconnaître... On parle pas de convention collective, on n'en est pas là, là. Mais ce que je veux dire, c'est que notre tâche s'est modifiée avec le temps. Et les collèges sont ouverts, C'est des grosses affaires, hein, c'est des grosses machines quand on dit « Ah, avoir une classe branchée, mettons, branchée pour les étudiants, là, je n'entends pas pour le prof à l'avant », mais c'est sûr qu'il y a un coût qui est monstrueux derrière ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, on a le vertige, parce qu'on dit « Oui, mais on s'en va où, là, ça va coûter combien ?» Puis est-ce que vraiment tout cet argent-là, en bout de piste, ah, c'est vrai que, bon, on peut voir des limites, mais il y a aussi une réalité en, qu'on se doit de reconnaître. Mais quand on dit on doit soutenir, je pense qu'il faut aussi faire place à de l'expérimentation. Il faut parfois faire place à un peu de folie. Mais une folie créative qui nous mène à explorer des sentiers pour voir l'ampleur de tout ça. On l'a fait à beaucoup de reprises. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que, bon, je pense à Gisèle Lamy particulièrement, qui a été très ouverte quand on a parlé du développement des classes, les nouvelles classes, qui nous a soutenus. Et je me dis, mon Dieu, quel beau résultat. Et quand on voit ça, qu'est-ce qu'on remarque après? Ben là, nous, en prof, on chicane pour savoir où on va enseigner. Parce que, mine de rien, même les profs qui sont les moins, qui se sentent les moins habilités au niveau des nouvelles technologies, on voit des choses, on se laisse prendre graduellement. On fait pas les mêmes choses, c'est sûr, mais on se laisse prendre. Alors, la même chose pour Chronos. Moi, je me dis, l'impact que ça aura dans le réseau, ça aura un impact. Peut-être qu'on peut le juger minime, mais toutes ces réalités-là, bien sûr, ont une place pour l'ouverture vers les nouvelles réalités.
Si je peux juste dire un mot aussi, le collège nous a soutenus aussi et nous a reconnus aussi très spécifiquement avec nos demandes au CCDMD pour produire Chronos. Et ça aussi, il ne faut jamais minimiser l'importance des choses comme ça. Avoir le temps de dégrèvement là, qu'on a eu, c'était essentiel. Et la reconnaissance là, que le collège nous a accordée à différents moments, là, de dire ben, c'est bien ce que vous avez fait, là, le lancement qui avait été fait là, de Chronos ici au collège. C'est des choses qui peuvent paraître banales, mais...
Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce qu'on ne peut pas imaginer créer... Par rapport aux nouvelles technologies, je me dis, il y a des addicts. Enfin, il y a des gens qui se nourrissent des nouvelles technologies, mais à mon avis, c'est pas, quand je me regarde personnellement, c'est pas mon cas. Et il faut à un moment donné qu'il y ait des formes de soutien pour que cette réalité-là soit moins lourde. Parce que nous n'oublions pas, pour l'essentiel, le prof, il fait quoi? Il est en classe, il est à la disponibilité de ses étudiants, il corrige, il prépare son cours, mais préparer son cours, c'est préparer une matière. C'est pas préparer le médium pour rendre cette matière, c'est aussi préparer cette matière, c'est fondamental. Donc, s'il n'y a pas de support, c'est évident que... Et moi, je dirais, ça explique peut-être dans beaucoup de collèges, à cause de la charge qui est trop lourde, ça explique la tiédeur de l'engagement.
OK. Donc, on va conclure ici. Je vous remercie, mais en même temps, peut-être qu'avec votre point de vue d'historien puis de gens qui ont beaucoup d'expérience dans un collège, est-ce que vous aviez comme une vision de l'avenir, autant en termes de technologie, comment les technologies vont... Est-ce que les technologies vont changer les étudiants, tout ça? Est-ce que vous avez ça comme un flash, justement, comme tu parlais tantôt, avec les nouvelles technologies, on aime ça, un petit flash en
poste? Moi, je dirais peut-être petit flash. Moi, je pense qu'on ne peut jamais parler de plus que 2 ans d'avenir là, avec les nouvelles technologies. Donc, moi, ce que je me dis, j'aimerais relancer l'idée là, des forums de discussion dans mes cours. Ça, je pense qu'il y a un potentiel là qu'on n'a pas exploité encore.
Louis?
Je dirais, l'étudiant, il change à cause de la société qui se transforme. Et cette société-là, de fait, actuellement, le monde est devenu petit. Et, entre autres, à cause des nouvelles technologies, l'étudiant baigne là-dedans. Alors, ce qui pouvait nous apparaître fabuleux, hein, on parlait de l'Orient avant dans nos cours, ben, il y a des étudiants maintenant au secondaire qui vont faire un voyage en Inde où instantanément, ils peuvent être en contact, en relation avec des sites qui sont produit en Inde. Alors, c'est sûr que le monde est plus petit, leur réalité est plus immédiate. Et je pense pas que ça, on va revenir en arrière. Et c'est vrai que ça transforme, enfin, plus on est âgé comme enseignant, c'est vrai que ça transforme notre vision d'étudiant.
OK, je vous remercie, puis je souhaite encore plein d'histoires pédagogiques avec ou sans technologie.
Merci.